11h30, Infomag, Jean-François Bodin.
Après l'avis favorable du Congrès, la proposition de loi organique pour inclure les natifs sur la liste électorale provinciale a été adoptée par les sénateurs. Elle va maintenant prendre la direction de l'Assemblée nationale. 2 ans après les émeutes et la destruction de son espace à Magenta, le groupe Jandot rouvre son site historique à côté de l'atelier. 8 candidates pour une couronne, les prétendantes à Miss Calédonie 2026 ont été présentées hier. Elles sont âgées de 17 à 27 ans et se préparent pour la soirée élection du 25 juillet. En métropole, Gérald Darmanin s'entretient pendant plus de 2 heures avec le président algérien. Une visite éclair qui a essentiellement porté sur la coopération judiciaire. L'ouverture à Marseille du procès du clan Yoda, 20aine de narcotrafiquants comparés autour du chef présumé de l'organisation, Félix Bengui. Et puis une nouvelle course pour les amateurs de voile. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le CNC annoncent le lancement de la Corail 600, première course hauturière organisée au sein du parc naturel de la mer de Corail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Commis de cuisine, plongeur, réceptionniste, chauffeur-livreur ou encore assistant RH et cuisinier, Nurest organise ce vendredi une grande opération de recrutement, événement à la salle Omnisport de Boulary qui a lieu de 8h à 13h et qui permettra aux candidats de rencontrer les équipes. Nous parlerons de cette opération recrutement dans le magazine Citoyen dès la fin de ce journal. Nos invités seront Antoine Brouillet, le directeur général, Didier Marail, le directeur des opérations, Lenka Manuel-Allo, la directrice des ressources humaines et Tiffany Cure, la responsable des ressources humaines. L'occasion également de faire le point sur la situation de Nurest en Nouvelle-Calédonie. Le Sénat adopte la proposition de loi organique qui ajuste le corps électoral provincial pour y inscrire les natifs. Après l'avis favorable du Congrès hier après-midi, puis celui de la Commission des lois du Sénat, le texte a été adopté en séance publique cette nuit pour nous par les sénateurs Elisabeth Noir.
Les sénateurs qui ont examiné la proposition de loi organique déposée par le sénateur Georges Naturel et qui vise à ouvrir le corps électoral provincial à 10 569 natifs. Cette proposition de loi organique a été adoptée par 304 voix pour et 20 voix contre. En ouverture des débats, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris la parole pour défendre cet ajustement. Et il a réaffirmé, comme il l'avait fait dans son adresse aux Calédoniens, que le statu quo ne peut être une base solide pour l'avenir. Il peut même être le ferment demain de la violence, a mis en garde le Premier ministre.
Ce statu quo ne peut être un destin viable pour personne, ni pour les indépendantistes, pour qui ils condamnent leurs aspirations, ils bloquent le processus de décolonisation, ils éteignent les perspectives dessinées par leurs anciens. Il ne l'est pas non plus pour les non-indépendantistes. Ils condamnent la stabilité économique et donc sociale sur le caillou, ils précipitent vers le déclin sans apporter de réponse aux attentes de toutes celles et ceux qui vivent et qui sont attachés durablement à la Nouvelle-Calédonie et qui aspirent aussi à participer directement à sa vie démocratique. Enfin, le statu quo n'est certainement pas un destin pour l'État. Et cela vaut autant pour le pouvoir exécutif que pour le pouvoir législatif. Il nous condamnerait à entretenir une situation juridique fragile et porteuse de risques. Il conduirait inéluctablement l'État vers une faute devant la justice internationale et à la fin devant l'histoire. C'est ce que les signataires des accords avaient compris. C'est notre héritage. Il nous faut donc avancer.
Sébastien Lecornu a défendu une proposition d'équilibre, c'est-à-dire l'ouverture aux natifs et aux conjoints unis depuis plus de 5 ans et inscrits sur la liste électorale générale. Ce deuxième point a fait l'objet d'un amendement déposé par le gouvernement, une position contestée par le sénateur Georges Naturel, qui a défendu, lui, une ouverture aux seuls natifs.
Pouvons-nous aller plus loin en nous écartant de l'esprit de l'accord de Nouméa, en y intégrant des catégories d'électeurs aujourd'hui exclues, telles que les conjoints de citoyens calédoniens? Le gouvernement a déposé un amendement visant à intégrer les conjoints de citoyens calédoniens dans le corps électoral spécial provincial. Je comprends évidemment l'intention politique qui sous-tend cette démarche et je soutiens la légitimité des conjoints à pouvoir un jour participer à la désignation des élus provinciaux. Mais je considère que nous devons être extrêmement attentif à la solidité juridique du dispositif qui sera finalement retenu. Cet élargissement aux conjoints augmenterait considérablement le risque de censure de la loi organique par le Conseil constitutionnel et réduirait ainsi à néant nos efforts pour corriger l'anomalie de l'exclusion des natifs calédoniens.
Le sénateur indépendantiste Robert Rowy est opposé lui aussi à l'ouverture aux conjoints, mais de toute façon, il est opposé également à l'ouverture aux natifs. Il reste sur la position du FLNKS qui s'oppose à toute modification du corps électoral en dehors d'un accord global.
On entend dire aussi que des amendements vont intervenir pour ouvrir le corps électoral calédonien aux conjoints des citoyens calédoniens. Cette extension rouvre la colonie de peuplement, ce qui est un premier motif d'opposition. Mais également, elle rend la citoyenneté accessoire d'une relation privée, maritale et révocable. Elle contredit directement notre tradition républicaine française et est certainement inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, le 19 septembre 2025, avait développé l'idée que les élections au Congrès du pays pouvaient se tenir sans modification aucune du corps électoral calédonien et en renvoyant toute modification à la discussion d'un accord global à venir. Il n'existe donc aucune urgence à statuer aujourd'hui et à prendre position. Cette loi n'a pas néanmoins le soutien politique du FNKS, c'est-à-dire d'un partenaire politique incontournable des accords de paix et de décolonisation de notre pays.
Au terme du débat, la proposition de loi organique a donc été adoptée par 304 voix. Seuls les 20 sénateurs communistes du groupe de Robert Rowy ont voté contre. Mais le texte adopté ne concerne encore une fois que les natifs. L'amendement concernant les conjoints déposé par le gouvernement a été rejeté par les sénateurs par 183 voix contre pour 147. Ce sont les sénateurs de gauche et du centre qui ont voté contre. La réaction de Georges Naturel après l'adoption de sa proposition de loi organique qui ne concerne donc que les natifs.
C'est pas aujourd'hui dans les délais qui nous sont impartis. Et je remercie le Premier ministre d'avoir fixé la date des élections, parce que ça, c'est essentiel. Donc, il nous reste 40 jours pour effectivement les organiser au mieux. Donc, c'est un résultat maintenant, parce que c'est pas terminé, qu'à l'Assemblée nationale, il y a un vote conforme pour qu'on puisse enfin régler le problème des électeurs qui pourront participer donc à ce vote le 28 juin. Les conjoints, ça viendra. C'est vrai que c'est un sujet sensible. On l'a rappelé déjà pour l'emploi local, on a eu souvent ce débat. Donc je pense qu'on a besoin, entre Calédoniens, à définir précisément ce qu'on entend par conjoint. C'est essentiel. Il va bien falloir à un moment donné le faire, mais ça viendra. Et le 29 juin, il faudra effectivement que les nouveaux élus se mettent autour de la table pour avancer sur le dossier avant la fin de l'été et la vraie campagne pour les élections présidentielles.
Réaction également du Premier ministre Sébastien Lecornu dans l'ouverture aux natifs. Il voit un pas en avant pour ouvrir sereinement après les provinciales un cycle de discussion et pour finaliser un accord institutionnel global dans les prochains mois.
Ce qui compte, vous savez, c'est que les élections provinciales se passent bien, que le débat politique soit de bonne qualité, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels l'État, votre serviteur, en est plus du tout compétent. Il faut quand même, à un moment donné, que la campagne aussi permette de parler de tous ces sujets dont on parle que trop peu. Il n'y a pas que les institutions, il n'y a pas que les questions politiques, il y a aussi la vie quotidienne. Et les provinces ont évidemment un pouvoir important. On fait ce qu'on peut sur les affaires de corps électoral. Et puis en même temps, ce qui compte, c'est le lendemain. C'est le lendemain du début juillet sur lequel je serai disponible pour travailler avec tout le monde. Donc, c'est un pas dans un dossier dans lequel le surplace est parfois un risque majeur. Je pense qu'il faut prendre tous les pas comme ils viennent, avec beaucoup de simplicité et beaucoup de défense de l'intérêt général.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie débuteront après les élections provinciales du 28 juin et elles devront aboutir avant la fin de l'année, a affirmé Sébastien Lecornu devant le Sénat. Après cette adoption de la proposition de loi organique, la réaction sur le territoire de Virginie Rufnac, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Une satisfaction déjà que l'ensemble du groupe, à quelques voix près à peine, des Républicains au Sénat, qui sont le groupe le plus important du Sénat, aient tous voté les deux dispositions, à la fois l'inscription des natifs prévue par le texte, mais aussi l'amendement du gouvernement qui prévoyait l'inscription des conjoints. Bon, et là, ça n'aura pas été suffisant. Et à ce stade, au Sénat, les conjoints n'ont pas pu être adoptés. Il manquait des groupes. Les centristes n'ont pas voté. Il y a quelques macronistes qui n'ont pas voté aussi. Et du coup, on se retrouve avec une minorité. Et les choses ne sont pas encore terminées.
Ça doit passer à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une chance que les conjoints puissent passer à l'Assemblée nationale?
Alors écoutez, oui, il y a encore une chance, absolument. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée, il y a un groupe Rassemblement National qui peut faire la différence. Aujourd'hui, les LR votent tous pour. Clairement, je pense que le groupe de Nicolas Metzdorf votera pour. Et donc, il manque finalement plus que le Rassemblement National sur les deux dispositions, c'est-à-dire les natifs et les conjoints, pour que ces personnes soient inscrites sur la liste électorale spéciale provinciale. Il me semble qu'il y a eu des déclarations de Marine Le Pen indiquant qu'elle était plutôt favorable à l'inscription des natifs et des conjoints. Si tel est le cas, il peut y avoir une majorité à l'Assemblée nationale et alors il y aurait une commission mixte paritaire qui devrait se caler sur un texte final. Dans cette commission mixte paritaire, clairement, la majorité LR au Sénat a une part très importante et donc c'est pas du tout impossible qu'après avoir été rejetée au Sénat, la disposition concernant l'inscription des conjoints de Calédoniens, de citoyens calédoniens, puisse recueillir un avis favorable à l'Assemblée et puisse être encore votée in fine.
Voilà, le suspense continue donc après cette adoption par le Sénat. La proposition de loi organique a été transmise à l'Assemblée nationale. Elle sera examinée aujourd'hui par la commission des lois avant d'être examinée demain, mercredi, en séance publique par les députés.
Et c'est Naya Wateou, l'une des porte-parole des loyalistes pour la campagne pour les élections provinciales, qui était notre invitée ce matin à 7h30. Et vous l'avez bien sûr interrogée sur l'ajustement du corps électoral provincial.
Oui, puisque le Sénat a adopté la proposition de loi organique modifiant le corps électoral provincial, mais que dès hier, c'est le Congrès qui avait donné un avis favorable à l'inscription des natifs par 25 voix pour, 14 contre et 13 abstentions. L'intergroupe Les Loyalistes s'est abstenu, ce qui avait surpris. Et nous avons demandé à Naya Wateou si ce n'était pas un mauvais signal envoyé aux parlementaires.
Non, je pense que justement, c'est aussi ce message de dire que l'inscription seule des natifs, c'est largement insuffisant. Et ça a été dit notamment dans le cadre des différentes interventions qui ont été faites par mes collègues au sein du Congrès. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que seuls les natifs puissent avoir le droit de s'exprimer sur leur quotidien en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est d'autant plus regrettable, c'est de voir qu'un sénateur, et notre sénateur républicain, vote contre l'amendement qui est déposé au Sénat pour l'ouverture du corps électoral aux conjoints. Là aussi, on se pose des questions sur les vraies valeurs qu'on peut porter lorsqu'on défend les valeurs de la République. Et puis, c'est aussi un message politique, c'est de dire aujourd'hui à l'État de prendre sa part de responsabilité dans cette situation qu'il a aussi lui-même contribué à créer.
Naya Wateou, porte-parole des loyalistes pour les provinciales. Et justement, ce week-end, les loyalistes, c'est-à-dire les Républicains calédoniens, le MPC et Génération NC, réunissaient un séminaire de travail et d'échange pour préparer les prochaines échéances. Les loyalistes qui sont pratiquement en ordre de marche. Et Naya Wateou nous a dit sur quel programme ils allaient faire campagne.
La spécificité qu'on a, c'est qu'on a aussi un bilan. Revenir sur ces 7 années de mandature qui n'ont pas été simples, avec des crises successives sans précédent. On a eu à gérer une crise sanitaire, une crise insurrectionnelle, une crise économique. C'est de revenir sur ce travail qui a été engagé notamment par la province sud pour pouvoir accompagner les personnes les plus vulnérables, maintenir les Calédoniens et les Calédoniennes dans un sentiment de sécurité. Et puis cette relance de l'économie en préservant les emplois, en accompagnant les entreprises. 7 ans à protéger les Calédoniennes et les Calédoniens. Et puis au-delà de ça, effectivement, c'est ce programme parce que c'est important aussi de donner des perspectives et de donner de l'espoir, j'ai envie de dire, mais de manière très réaliste et très pragmatique. Effectivement, les thématiques qui font ressortir de ces ateliers et que l'on va aborder dans le cadre de cette campagne, c'est en priorité la question de la sécurité. C'est encore très prégnant dans le quotidien des gens, ce sentiment d'insécurité et comment est-ce qu'on vient accompagner une meilleure société où on se sent protégé. C'est la question du pouvoir d'achat, bien évidemment, de toutes les questions en matière d'ordre social et d'accompagnement. Accompagnement social et plus assistanat, parce que c'est aussi cette autre réalité, on n'a plus les mêmes moyens, donc il faut pouvoir aussi se responsabiliser. Pouvoir travailler également sur tout ce qui relève du bien-vivre en province sud, au travers notamment des personnes qu'on a besoin d'accompagner dans une meilleure société, mais aussi cette question de l'attractivité, parce que c'est essentiel.
Et puis évoquer également l'union avec le Rassemblement pour présenter des listes d'union, à la fois dans la province sud et dans la province nord. Une interview de Naya Wateou à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
L'actualité politique, c'est aussi cette union entre le Rassemblement et tous calédoniens. Elle est annoncée dans un communiqué signé Pascal Vittori, Wilfried Weiss, Alcide Ponga et Virginie Rufnak.
Ils relèvent tous les quatre que depuis plusieurs mois, le Rassemblement et tous calédoniens travaillent ensemble sur les enjeux institutionnels et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et qu'ils ont construit une relation de confiance fondée sur des convictions partagées. D'un commun accord, Pascal Vittori et Wilfried Weiss ont donc décidé de rejoindre le Rassemblement Les Républicains. Un choix évident, selon Pascal Vittori.
Nous travaillons depuis longtemps, Wilfried Weiss et moi-même, avec le Rassemblement. Wilfried avait été élu en province nord avec Alcide Ponga. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec Alcide Ponga et Virginie Rufnak, notamment sur l'avenir institutionnel. J'ai participé avec eux à Guarodeva, j'ai participé également à Bougival avec eux. J'ai mené campagne pour Alcide Ponga quand il s'est présenté aux législatives dans la deuxième circonscription. Et dans cette période difficile, dans cette période où on doit préparer des élections provinciales, où on doit certainement au mois de juillet repartir sur des discussions sur l'avenir institutionnel, il nous a semblé important de nous regrouper, de solidifier les liens entre nous et puis de nous unir au sein d'une même famille. Je pense qu'on sera beaucoup plus efficace de cette façon-là. En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité avec Wilfried Weiss. Avec Wilfried Weiss, on a une particularité quand même, c'est qu'on ne vient pas des Républicains, on vient en métropole du centre droit, mais ça n'est pas une nouveauté au Rassemblement puisque c'était le positionnement à l'époque de personnalités comme Jean Lèque ou comme Pierre Maréchal.
Et parmi les convictions partagées par le Rassemblement et tous calédoniens, le respect de la parole des Calédoniens exprimée à 3 reprises lors des référendums, la défense de la Nouvelle-Calédonie dans la France, le dialogue comme méthode, mais aussi la détermination et la fermeté lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, indique ce communiqué commun. Pour sa part, le Rassemblement tient à saluer l'engagement de Pascal Vittori et de Wilfried Weiss, ainsi que la confiance qu'ils accordent aujourd'hui à cette démarche commune au service de la Nouvelle-Calédonie. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici d'abord notre question du jour. Quelle est votre position sur l'ouverture du corps électoral qui est actuellement en débat devant le Parlement? Si vous êtes partisan de l'ouverture aux natifs et aux conjoints, vous tapez 1. Si vous êtes partisan de l'ouverture aux seuls natifs, vous tapez 2. Si vous êtes opposé à toute ouverture du corps électoral, vous tapez 3. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis la réponse à la question d'hier. 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les loyalistes et le Rassemblement ont eu raison de s'unir en vue des élections provinciales. Ils sont 13% à penser qu'ils ont eu tort. Il est 11h46, c'est une première pause. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Comment réduire mes impôts tout en relançant l'économie du pays? Tu le sais, toi?
Bien sûr. Fais appel à des professionnels pour réaliser des travaux sur ta maison et profite des nouvelles mesures fiscales accordées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Comment ça?
Maintenant, tous les travaux sont éligibles dès ta déclaration 2025. Intérieur ou extérieur, habitation principale ou secondaire, ancien ou récent, tous les travaux. Sauf, bien sûr, l'entretien courant, les petites réparations, la déco.
Et c'est tout?
Attends, cerise sur le gâteau. Le plafond des travaux déductibles passe à 15 millions étalés sur 3 ans dès 2025.
Ah bah ça, c'est un sacré coup de pouce.
Nouveau dispositif, travaux déductibles, réduisez vos impôts, relancez les.
Liste des travaux éligibles sur dsf.gouv.nc.
Dimanche 31 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales fête des mères sur la page Facebook Le Fun.
Renault Dacia est de retour à Magenta Aérodrome, un lieu chargé de souvenirs et tant d'autres à écrire. Retrouvons-nous ici pour découvrir ou redécouvrir nos modèles iconiques et nos nouveautés avec une nouvelle énergie et toujours la même proximité. Renault Dacia, Magenta Forever. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie, Renault fait son retour à Magenta. Ce matin, le groupe Jandot a inauguré son nouvel espace en face de l'aérodrome. Nicolas.
Oui, les marques Alpine, Renault et Dacia quittent le 4e kilomètre pour se réinstaller non loin de l'ancien showroom qui a été détruit, vous le savez, durant les violences insurrectionnelles. 650 voitures ont été entièrement détruites et 250 endommagées ce soir du 13 mai, mais surtout les infrastructures. Alors pour revenir sur ce site, c'est forcément une étape importante pour le groupe présidé par Laurent Jandot.
C'est une grande satisfaction, c'est un peu un retour à la maison comme disent les collaborateurs puisqu'on a tous dû quitter ce site un petit peu en urgence au lendemain des exactions et donc y revenir c'est très important. On retrouve des infrastructures qu'on avait précédemment, tous les véhicules neufs Renault Dacia Alpine ainsi que les véhicules d'occasion et puis le service des locations de voitures en métropole donc toute l'activité commerciale de Renault Dacia, en fait. Sur ce lieu historique où la marque a toujours été, c'était très important pour les collaborateurs et pour nous aussi d'y revenir le plus vite possible.
Renault a vu le jour effectivement sur ce site en 1971, mais au-delà du symbole, c'est aussi un confort pour les équipes et les clients, car désormais l'activité commerciale est proche de l'atelier. Sacha Boileau est directeur général délégué du groupe.
C'est la réouverture du site Renault et Dacia à Magenta. Cet espace il sert à ramener les marques à Magenta pour plusieurs raisons. Déjà, pour avoir des locaux plus adaptés pour nos clients et surtout pour nos ateliers, parce qu'on est quand même étroitement liés de par nos activités. Et là, l'espacement au 4e kilomètre posait souci au niveau fonctionnel. Ça a été très très compliqué, notamment pour les équipes de Sodoto, donc Renault et Dacia, parce que, comme vous pouvez le voir, le showroom a été entièrement détruit. Donc dans l'urgence, on s'est déplacé à 2 reprises. Et on s'est retrouvé effectivement dans des petits modulaires compressés. Et pendant 2 ans, ça a été extrêmement compliqué. Déjà, l'identité de la marque s'est un peu éparpillée, noyée. Au 4e kilomètre, il n'y avait plus de référence visuelle.
Et donc, il s'agit là d'une étape de transition. Le groupe Jandot attend maintenant de reconstruire son showroom en lieu et place de l'ancien qui a été détruit en 2024. Cela prendra 2 à 3 ans.
Faisons maintenant le point sur les transports à destination des îles. Cela fait près de 2 mois et demi que les aérodromes des loyautés sont bloqués. Aucune solution ne semble se dessiner. Et la liquidation d'Air Calédonie fait partie des scénarios envisageables. C'est en tout cas dans ce contexte qu'hier, Air Oceania a annoncé reprendre sa desserte vers les îles depuis Magenta, Léana Colombo.
Les activités de la compagnie aérienne Alpine était à l'arrêt depuis novembre 2025 en raison d'une panne moteur, mais tout est désormais rétabli. Aujourd'hui, deux rotations sont programmées vers Lifou. Le premier trajet est complet, il reste quelques places sur le second. Mais attention, les places partent très vite dans cet appareil qui ne compte que 9 sièges. Vous pouvez contacter la compagnie aérienne au 25 37 57, 25 37 57 pour tout renseignement ou réservation. Côté maritime, en raison de conditions météorologiques défavorables, le Betticcio avait été contraint hier d'annuler sa rotation vers Lifou et Marée. Elle est reportée à demain et à partir du 28 mai, le Seabreeze 2 arrive en renfort pour la desserte de l'île des Pins. Une demande de la province sud pour proposer une alternative adaptée aux besoins de déplacement des résidents ainsi qu'à la demande touristique. Les tarifs restent les mêmes que sur le Betticcio qui assurera également la vente des billets.
En bref, au palais de justice de Nouméa, la deuxième session d'assises de l'année s'est ouverte ce matin par une affaire de mœurs. Il s'agit d'un dossier de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse commis sur un mineur de 15 ans. Des faits commis en 2023 à Dembéa pendant plusieurs mois par un homme de 34 ans sur ses deux belles-filles âgées de 9 et 10 ans au moment des faits. Les faits divers, à Païta, un dock de 300 mètres carrés dans une propriété située sur la route du Montmou a été entièrement incendié tôt ce matin. Un engin agricole et 5 véhicules légers ont été détruits par les flammes, attisés par des bottes de foin. Les pompiers sont intervenus aux alentours de 5 heures du matin et actuellement ils sont toujours sur place pour assurer une surveillance. 3 véhicules et une dizaine de soldats du feu ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie qui sont pour le moment inconnues. Et puis une information pratique, je vous rappelle que c'est aujourd'hui mardi la date limite de déclaration des revenus pour les particuliers résidents à Nouméa qui ont choisi d'opter pour une déclaration en ligne. Les résidents hors Nouméa ont encore une semaine pour télécharger leurs revenus. La date limite est fixée au mardi 26 mai. Qui va succéder à Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025? Cette année, l'élection de la reine de beauté aura lieu non pas au mois de septembre, au mois de septembre. Elle aura lieu le samedi 25 juillet dans les jardins de Nouméa Resort and Spa. L'invité d'honneur de cette soirée, dont le thème est voyage en beauté, sera Maëva Cook, Miss France 2018. Les 8 candidates qui briguent le titre cette année ont été présentées hier. Elles sont âgées de 17 à 27 ans et se préparent depuis un mois maintenant. Nous allons entendre 4 d'entre elles dans ce journal. Les 4 autres dans notre édition de 17h45 ce soir. Commençons par Alizé Clémenceau qui est la première candidate, elle a 19 ans.
Je suis en BTS, gestion de la petite et moyenne entreprise, en deuxième année, donc ça fait déjà un an de parcours professionnel puisque je suis dans un parcours en alternance et je soutiens beaucoup l'alternance puisque ça permet aux jeunes de rentrer dans le monde professionnel et je suis donc à Pépite NC, un dispositif au sein de l'université et j'accompagne beaucoup les jeunes dans l'entrepreneuriat.
Pourquoi vous avez décidé de vous lancer ?
Honnêtement, je voulais déjà me lancer l'année dernière et après je me suis dit que pour faire ce genre de concours, il faut pas juste vouloir rêver mais aussi avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est important. Et c'est un concours qui en demande beaucoup. Et je pense que chaque jeune fille qui hésite un petit peu devrait le faire parce que je pense que c'est une très belle aventure. De montrer que tout est possible, il suffit juste qu'on le veut, qu'on se lance, qu'on se mette un petit peu dans le bain. Je veux prouver que moi aussi, je peux paraître stressée et que je le suis souvent. Mais que ça peut bien se passer, il faut juste se lancer et croire en soi.
Luna Lopez est la deuxième candidate. Elle a 21 ans.
Professionnellement, je sors d'un bachelor, donc bac plus 3 de gestion et de commerce donc à l'EGC, que j'ai effectué en alternance et donc je suis en CDI dans l'entreprise. C'est une entreprise familiale qui s'appelle Estia, sous-traitance de nettoyage. J'espère continuer à grandir dans cette entreprise encore longtemps.
Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ?
On me l'a proposé et je pense que dans la vie, il faut savoir accueillir les opportunités. Alors même si je ne viens pas du tout du milieu photographe, mannequin, maquillage, je me suis dit pourquoi pas et en réalité j'ai tout à apprendre et rien à perdre, donc allons-y.
La troisième candidate pour cette élection Miss Nouvelle-Calédonie 2026 est âgée de 27 ans, elle s'appelle Estelle Talatini.
Je viens de revenir de métropole parce que c'est vrai que j'ai fait une partie de mes études en droit et j'ai aussi exercé en tant que professionnelle en métropole avec le mannequinat. Et donc je suis rentrée il y a à peu près un mois et demi sur le territoire. Donc là pour l'instant je suis juriste en libéral.
Pourquoi avoir décidé de se lancer dans cette aventure ?
Je pense que c'était quelque chose qui était resté un petit peu en suspens dans ma tête au travers ces années. C'est vrai qu'on m'a beaucoup poussée à le faire et je suis assez reconnaissante et assez fière que certaines personnes m'aient poussée à le faire. Et je pense que ça peut être une belle aventure. Autant pour la confiance en soi, autant pour les rencontres qu'on peut faire avec les filles. Pour tout ce que l'aventure peut nous apporter, je pense que c'était une très belle aventure. Et on ne sait jamais, avec un peu de chance, représenter aussi la Nouvelle-Calédonie à travers Miss France, ce serait un très beau cadeau et une très belle représentation.
On passe à la quatrième candidate à Miss Nouvelle-Calédonie 2026, candidate numéro 4 qui a 19 ans et qui s'appelle Vaïa Mercier.
Je suis en licence de droit à l'université. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ?
C'est surtout pour montrer à tout le monde que tout le monde est capable, qu'il n'y a pas de honte à avoir à faire une élection et que ça ne définit pas la personne qu'on est, parce que tous ceux qui me connaissent savent très bien que jamais ils auraient misé sur moi pour me présenter aux Miss Nouvelle-Calédonie.
Voilà 4 des 8 Miss qui seront candidates pour cette élection cette année, des propos recueillis par Kélinda Boicou. Notez que vous entendrez les 4 autres candidates ce soir dans notre journal à 17h45. Des Miss qui participeront à différents rendez-vous, notamment des candidates Miss qui participeront à différents rendez-vous. Elles seront notamment au Salon du Tourisme au Parc Brunelet et au Salon du Mariage au Nouméa Resort & Spa, prévu le 31 mai prochain. Une pause dans ce journal à 11h et bientôt 56 minutes. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'est bon, sac poubelle changé.
Déjà ?
Eh ouais, c'est normal, c'est les sacs poubelles Pratisac.
Ah ?
Les liens coulissants Pratisac, tu tires et hop.
Ah ouais, fini les nœuds.
Pratisac, les sacs avec liens coulissants, solides, pratiques, de 30 à 120 litres, Pratisac, tu tires et c'est dans le sac.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite ? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de l'information, l'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Bodin.
On commence par l'actualité en métropole où les carburants affichent toujours un prix record à la pompe. La crise générée par la guerre au Moyen-Orient s'inscrit dans le temps. Dans 2 jours, le Premier ministre doit annoncer un élargissement des aides, notamment envers les professions les plus touchées. Il parle d'un changement d'échelle et d'ampleur alors que les automobilistes ne comprennent pas pourquoi l'État n'agit pas plus vite.
On a l'impression quand même de servir de pompe à essence à l'État qui prend un max de taxes dessus et Total qui, soi-disant, fait ses offres mais qui fait un super bénéfice comme d'habitude. Donc en fait, une fois de plus, c'est nous qui payons et c'est nous qui subissons les conséquences de tout ça.
Ce qu'il faudrait surtout, c'est baisser les prix parce que dans d'autres pays européens, c'est plus bas. On a envie de faire autre chose que de mettre du carburant dans notre voiture. Et aujourd'hui, ben, on compte différemment. Les loisirs, on en fait moins. Moins de restaurants, moins de choses, on consomme moins.
La crise du prix du pétrole est évidemment la conséquence de la guerre au Moyen-Orient et les discussions semblent dans l'impasse. Plusieurs propositions proposées par l'une des parties a été rejetée par l'autre, mais les échanges se poursuivent, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien.
Nous avons reçu une série de propositions de l'autre partie que nous examinons depuis quelques jours. Comme nous l'avons annoncé, nos préoccupations ont été communiquées à la partie américaine. Le processus se poursuit donc par le biais de l'intermédiaire pakistanais.
Et d'autre part, on a appris que Téhéran avait annoncé la création d'une agence chargée de gérer le détroit d'Ormuz. Cette agence doit permettre de contrôler les opérations dans le détroit, c'est-à-dire d'autoriser les navires à transiter, mais aussi de percevoir un droit de douane. La visite de Gérald Darmanin en Algérie aura-t-elle permis de réduire 2 ans de crise aiguë entre Paris et Alger ? Le ministre de la Justice s'est rendu sur place pour un voyage express avec pour objectif de restaurer la coopération judiciaire sérieusement mise à mal ces derniers mois. Il a pu longuement rencontrer le président algérien Tebboune. Jacques Serré pour Europe 1.
Un long, très long entretien. Gérald Darmanin a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune durant 2h30. L'heure est au réchauffement de la relation diplomatique entre Paris et Alger.
Je remercie le président de la République algérienne du très long échange qu'il a bien voulu m'accorder. On a pu évoquer le travail que nous devons continuer à faire pour renouer la confiance entre deux pays qui se respectent, la France et l'Algérie.
Renouer la confiance autour d'un certain nombre de sujets particulièrement sensibles. Le cas du journaliste Christophe Glaise, condamné en décembre dernier à 7 ans de prison, a été évoqué par le garde des Sceaux, sans que l'on sache toutefois si le régime algérien serait susceptible ou non de le libérer. Ça pourrait dépendre des demandes qu'Alger réclame à Paris, comme la restitution des biens dits « mal acquis ». Pour cela, l'entourage de Gérald Darmanin fait savoir qu'après 2 années d'interruption totale, la reprise concrète de la coopération judiciaire entre les deux pays est actée. Une délégation de hauts magistrats algériens est ainsi attendue à Paris au début du mois de juin.
À Nice, 3 personnes ont été mises en examen après la fusillade dans le quartier des Moulins la semaine dernière. Fusillade sur fond de trafic de drogue pour le contrôle d'un quartier. 2 pères de famille sans aucun lien avec le narcotrafic ont été tués, 6 autres personnes blessées. Et la nuit dernière pour nous, sur la place même où s'est déroulé ce drame, le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, a inauguré un nouveau commissariat de la police municipale. Il en avait fait une promesse de campagne.
Il faut de l'investigation, il faut des enquêteurs, mais il faut aussi de la présence sur le terrain. Donc nous ouvrons aujourd'hui ce poste de police municipale. Cette police sera, avec la police nationale, dans le cadre notamment de patrouilles mixtes, présente en permanence.
Le maire de Nice, Éric Ciotti, est pendant ce temps toujours au chapitre du narcotrafic. À Marseille, vient de s'ouvrir le procès du clan Yoda, une organisation rivale de la DZ Mafia. Une vingtaine de personnes est assise dans le box des accusés, notamment le chef présumé du clan, Félix Bengui. Il avait été arrêté au Maroc avant d'être expulsé vers la France, Stéphane Burgat.
Son parcours judiciaire est chargé et il débute dès sa minorité 13 infractions déjà inscrites à son casier judiciaire. Conduite sans permis, refus d'obtempérer, vol avec violence, dossier de stupéfiants déjà, ou encore association de malfaiteurs. Félix Bengui s'exprime à chaque fois d'une toute petite voix depuis son box, entouré de policiers. L'homme âgé de 35 ans laisse apparaître une certaine puissance physique, mais reste toujours calme. Son avocat y voit le signe d'un innocent, mais la présidente n'a pas encore abordé le fond du dossier avec lui, les écoutes policières, les filatures et la justification de certaines ressources, comme ces deux villas achetées sur plan à Dubaï. Félix Bengui, en tout cas, semble avoir réponse à tout, de sa présence en Espagne, au Maroc et aux Émirats Arabes Unis, comme ces rentrées d'argent où il n'hésite pas à évoquer un business de revente de voitures qu'il menait depuis sa détention. Mais comment faisiez-vous, s'étonne la juge. Par téléphone, répond Bengui du tac au tac. Le principal accusé, bien préparé, ne manque pas d'aplomb pour l'heure. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et à midi une nouvelle pause. Dans un instant, c'est l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu. À seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Corail 600, c'est le nom de la première course hauturière au cœur du parc naturel de la mer de Corail. Une course organisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Cercle Nautique Calédonien, Léana.
Cette course de voile classée catégorie 2 est ouverte aux monocoques auto-redressables de 8 mètres minimum. Engagée en double ou en équipage, elle aura lieu du 13 au 19 juin et le départ sera donné depuis la baie des Citrons. Un peu moins de 10 équipages seront engagés sur un parcours qui les conduira à travers plusieurs espaces maritimes emblématiques du territoire. Lucas Malige, responsable de la base nautique du CNC.
La Corail 600, elle va consister en un grand parcours de plus de 600 000 nautiques, ça fait à peu près 1100 km au large de la Nouvelle-Calédonie. Les concurrents vont donc aller faire le tour des monts sous-marins, donc des zones qui sont très peu naviguées. Mont Antigonia, le banc Ailette, le banc de l'Orme, avant d'ensuite faire le tour de l'île Marais, de contourner l'îlot Walpole et de rentrer en route libre par le Lagon Sud. Pour cette première édition, on attend 7 participants. C'est à peu près conforme à ce qu'on attendait, puisque les exigences en termes de sécurité, donc de préparation des bateaux, etc., sont bien supérieures à celles des courses qu'on fait habituellement dans le lagon.
Cette épreuve inédite est également l'occasion pour les participants de s'entraîner à haut niveau en vue de la prochaine Groupama Race.
On a, vous savez peut-être, comme gros événement biannuel, la Groupama Race, donc qui regroupe une bonne trentaine de navires calédoniens et étrangers, donc australiens et néo-zélandais. Mais entre deux éditions de la Groupama Race, il n'y a pas vraiment de grosses courses au large. Nous, au CNC, on organise des petites courses offshore tous les 6 mois à peu près, mais c'est pas vraiment comparable avec les 600 nautiques au large de la Calédonie. Donc l'intérêt pour nous de créer cette Corail, c'était aussi d'entretenir le niveau de pratique et de préparation des bateaux typant à la Groupama Race pour avoir une année sur deux, Groupama Race ou Corail 600, toujours tous les ans un événement majeur de course au large.
Au-delà de la compétition sportive, la Corail 600 s'inscrit dans les missions de sensibilisation et de valorisation du parc naturel de la mer de Corail. Une journée du parc est d'ailleurs prévue le dimanche 14 juin de 9h à 17h au Yacht Club du CNC. Le village de course proposera des expositions, des projections, des ateliers et des animations.
Le sport sur la scène nationale et internationale avec d'abord du basket et de la NBA et cette petite déception pour le phénomène français Victor Wembanyama. Le joueur des San Antonio Spurs a terminé 3e du vote pour le trophée de MVP, le meilleur joueur de la saison NBA. Derrière Nikola Jokic et le grand vainqueur des deux années de suite, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City Thunder. Hasard du calendrier, une fiche superbe en playoff puisque les Spurs de Wembanyama vont affronter Oklahoma City en finale de la Conférence Ouest. Duel très attendu entre le Français de 22 ans et le meilleur joueur de la saison, avec pour en jeu une place en finale de la NBA. Parlons tennis maintenant, et le tournoi parisien de Roland-Garros est lancé. Le tour principal commencera le week-end prochain et c'est en ce moment les qualifications. L'opening week, comme on l'appelle, attire chaque année des spectateurs de plus en plus nombreux. 20 000 attendus cette semaine. Ils viennent voir les nouveaux talents et saluer les joueurs en fin de carrière. Cyril de la Monnerie pour Europe 1.
À 17 ans seulement, le Français Daniel Jade a remporté son premier match en Grand Chelem. Le jeune tricolore, né au Liban et arrivé en France à 11 ans pour fuir la guerre, a dominé le Britannique Dan Evans, ancien numéro 21 mondial. Le jeune espoir tricolore était très ému.
C'est forcément de très bonnes sensations pour moi. Je suis très 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 heureux. Les efforts payent. C'est trop cool que ce soit à Roland ici avec l'ambiance, le public français. J'ai vraiment kiffé en tout cas et voilà, j'espère aller encore plus loin.
Chez les femmes, la Française Carole Monet, poussée par le public, s'est également imposée. Pour la joueuse de 24 ans, gagner un match à Roland-Garros, c'est toujours un moment particulier.
Les sensations sont incroyables. En fait, on est à la maison. Il n'y a rien de mieux que d'être soutenu du début jusqu'à la dernière balle.
En tribune, les spectateurs se régalent à l'image de Raphaël.
Franchement, le niveau est incroyable dès les qualifications, donc c'est incontournable chaque année pour les Parisiens qui adorent le sport.
Et pour son dernier Roland-Garros, le Belge David Goffin versait quelques larmes sur le court Suzanne Lenglen après avoir remporté son match. Autre ancienne gloire du tennis à entrer en piste, Grigor Dimitrov. Le Bulgare jouera demain face à un jeune joueur portugais.
Le reportage de Cyril de la Morinerie pour Europe 1 à Roland-Garros. Midi 6, c'est la fin de ce journal.